Indice S&P 500. Quel objectif de cours, quel prix visé pour la fin de l'année 2025 sur le plan technique et sur le plan fondamental? Dans cette nouvelle édition du Top Gun, vous allez assister à première partie. Que peut-on viser en termes de prix? 6003, c'est fait. Alors attention, le marché peut retracer à court terme, peut corriger à court terme, revenir tester les supports. Ça, c'est le court terme, j'en parlerai. Mais là, dans cette vidéo, je vais traiter le sujet de décembre. Sur le plan technique et fondamental, première partie, que peut-on viser pour la fin d'année? Vous allez voir, tout le monde y va de son prix. 6003, c'est fait. Cochez la case, boum, fin d'histoire. 6004, 6005, 6007, 7000 points, et que sais-je encore? Qu'est-ce qui est crédible sur le plan technique et sur le plan fondamental? Deuxième partie, vous savez que les entreprises du S&P 500 sont réparties au sein de 11 dits super secteurs. Ok, très bien. Imaginons que le S&P 500, même si à court terme ça doit retracer, corriger, mais imaginons, on se projette sur plusieurs mois, 6 mois, qu'il aille chercher ses cibles techniques supérieures. Du coup, quel secteur va le plus monter? C'est bien d'identifier le bon ou les bons secteurs et ensuite, derrière, de se tourner vers les actions qui composent ces secteurs. Mais qu'en est-il? Où sont ces secteurs? Comment s'appellent-ils? Où les trouver? C'est la deuxième partie de cette vidéo. Troisième partie, nous vivons cette semaine une semaine très chargée sur le plan macroéconomique avec des indicateurs macro pour la Chine, des indicateurs macro pour les États-Unis. Quatrième partie, vous avez ce mardi 15 juillet le dernier chiffre fondamental majeur qui compte avant la décision de politique monétaire de la Fed du 30 juillet, qui ne baissera pas assez tôt, sauf surprise exceptionnelle d'ici là. Ce 15 juillet, c'est l'inflation CPI. Alors, doit-on craindre une seconde vague d'inflation? Vous connaissez mon point de vue. Vous savez que Trufflation est en train de s'effondrer à nouveau. Il y a une mise en pause de la désinflation. Cette semaine, il devrait y avoir une petite hausse des taux d'inflation, mais on reste pas très loin des cibles de la Fed. Mais vous allez voir que les indicateurs avancés permettent d'être optimistes pour la suite de l'année. Cinquième partie, mais oui, cette guerre commerciale, cette diplomatie commerciale, cette nouvelle date limite du 1er août, voilà, il faudra en dire un mot. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Bon, voilà, j'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaît. Maintenant, j'annonce le plan d'entrée de jeu. Voilà, donc vous savez si vous avez envie de rester ou de ne pas rester. Mais imaginons que uniquement certaines parties vous plaisent, vous pouvez y aller directement. Tout est chapitré. Vous avez soit la barre de temps avec les titres, vous allez sinon dans la description de la vidéo, vous avez les titres et à chaque fois le timing, vous n'avez qu'à cliquer sur le chiffre indiqué, ça vous envoie à la bonne partie de la vidéo. Bon, on n'est pas rendu, hein, chers amis, avec cette guerre diplomatie commerciale, accord, pas d'accord commerciaux, les lettres. Bon, ok, très bien, la nouvelle date limite, c'est le 1er août. D'après l'executive order qui a été signé, c'est la dernière date limite. C'est la dernière date limite définitive parce qu'il y a eu d'autres dates limites définitives. Voilà, bon. Mais non, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'impact sur l'inflation. C'est très réduit. Vous savez pourquoi? D'une part, parce qu'il y a de l'incertitude économique, parce que la consommation ralentit. Une consommation qui ralentit, ça exerce des pressions baissières sur les prix. Deuxième raison, les entreprises, pour la plupart, qui ont impacté donc ces tarifs douaniers, pour celles qui les ont subis dans leur compte, légèrement, parce qu'elles ont les moyens. Vous avez vu, on est en plein saison des résultats trimestriels des entreprises, là. Vous avez vu les 4000 milliards de dollars de market cap qu'atteint Nvidia, les quasiment aussi 4000 milliards qu'atteint Microsoft. Bon, les stars de la tech sont toujours là, d'ailleurs. Hein. Mais voilà, elles ont les moyens de ne pas mettre sous pression un consommateur qui est déjà mis sous pression, qui est déjà mis à rude épreuve. Ok. Bon, alors, l'inflation CPI du 15 juillet. Consensus est assez pessimiste, mais en même temps, c'est simplement une mise en pause de la désinflation. On va regarder ça, il y aura peut-être une bonne surprise. En tout cas, pour la suite, vous allez voir que les indicateurs avancés permettent toujours de croire que cette cible de la Fed finira par être faite. Donc, nous sommes très très loin du scénario de ce groupe de personnes que j'aime décrier, les collapsologues. Hein, vous savez, qui nous annonce une inflation à 10%, des choses comme ça. et qui malheureusement, à moins de retourner leur écran, vous savez, sur la plupart des outils graphiques, il y a la fonctionnalité inverser le graphique. Éventuellement, s'ils inversent le graphique, ils verront une vague d'inflation. Voilà, donc c'est un peu le sujet dont j'ai envie de vous parler. Vous allez voir dans cette vidéo ce que les analystes financiers visent sur le plan fondamental. Et la question intéressante, c'est est-ce que l'analyse technique recoupe ? Y a-t-il des recoupements entre l'analyse technique et les opinions des analystes financiers, donc fondamentaux, sur le S&P 500 ? Naturellement, le S&P 500 est beaucoup trop monté, il est en surchauffe. Une correction fait du bien. Revenir tester les supports, ça fait du bien. Ça construit le mouvement. Et dites-vous bien que même dans une correction court terme, même si ça drop ce début de semaine, ça construit la tendance haussière de fond. Et revenir sur support, après cette remontada fantastique depuis le début du mois d'avril, marquer une pause, revenir sur support est toujours une bonne chose pour dégonfler le surachat, tant sur le plan du momentum que du sentiment, et pouvoir repartir ensuite de manière plus construite. Et c'est justement quand nous allons repartir de manière plus construite qu'il faut se poser la question. Ok, mais qu'est-ce que je vise ? Imaginons, moi, je suis exposé à un ETF S&P 500. C'est peut-être votre cas. Vous êtes probablement exposé à un ETF S&P 500. Vous avez le sourire depuis plusieurs semaines. Mais vous vous posez la question, ok, mais je revends quand ? 6003, 6004, 6005, pour quelle raison ? Que dit l'analyse technique ? Que disent les fondamentaux ? Eh bien écoutez, bienvenue, installez-vous confortablement, nouvelle édition du Top Gun. Alors S&P 500, bien sûr, je vais couvrir l'aspect court terme hein, déjà. Forcément, les supports sont éloignés, le marché peut revenir tester l'ancien record historique, peut-être même chatouiller un peu en dessous. Je vais reprendre un modèle d'évolution des prix qui s'était déployé en 2020, dans le sillage du choc boursier de la crise sanitaire et de la reprise. Mais au-delà de ça, le vrai sujet de la vidéo, au-delà du court terme, il faut prendre du recul, c'est comment on se projette. Hein, ou que peut-on viser, même après une correction court terme, que peut-on viser d'ici la fin d'année ? À quel prix me séparer ou encaisser donc mes ETF S&P 500 ? Le plan de la vidéo, je vous l'ai donné donc dans l'introduction. Je vous remets ici le plan à l'écrit. Nous allons suivre ces 5 parties. Et donc, nous attaquons directement la première partie. Je vais me réduire un peu ici. S&P 500, potentiel de 7 à 10% d'ici la fin de l'année. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? J'ai eu l'idée, si vous voulez, de prendre le problème dans un sens bien particulier. Vous savez que les analystes financiers s'expriment régulièrement. Tout ce beau monde donne son point de vue sur des actions. Et fondamentalement, les analystes financiers ont des objectifs, un objectif médian pour toutes les actions du S&P 500. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est une moyenne de ces objectifs. Alors, moi ici, ce que je vais vous proposer, c'est la cible médiane, les données viennent de FactSet, la cible médiane des analystes financiers pour le S&P 500 à horizon 12 mois. Ces données sont aussi disponibles pour les secteurs. Je vais donc reprendre avec vous les secteurs, mais je vais aussi vous réexpliquer quels sont ces secteurs et de quoi s'agit-il, comment on peut aussi regarder le graphique de ces secteurs et comment accéder aux actions qui composent ces secteurs. Et ensuite, l'idée, c'est de croiser ça avec l'analyse technique. Est-ce que ces objectifs des analystes financiers fondamentaux croisent des cibles que met en avant l'analyse technique ? Voilà donc le sujet du Schmilblick. Alors, tournons-nous un peu ici en haut à gauche du slide. Les analystes financiers envisagent un objectif de cours médian, un objectif de cours médian à horizon 12 mois de 6694 points. Les données viennent de FactSet. Il y a un certain nombre de détails ici qui concernent les secteurs, mais je viens au secteur dans le second slide. On n'est pas obligé de lire cet aspect-là des choses. Bon, alors la question est la suivante. Il y a un optimisme des analystes financiers. En même temps, ils le sont tout le temps. Est-ce que techniquement parlant, c'est fiable ? Et ensuite, on va voir où en est le S&P 500 sur le plan technique, donc à court terme. Mais déjà, donc, de quoi parlons-nous ? Nous parlons des éléments suivants. Je vais donc me réduire. Vous avez donc sous les yeux un graphique qui nous vient de FactSet. La source est écrite ici. Et vous avez donc ici, l'objectif de cours médian. Donc, médian, vous avez 50% des analystes financiers qui visent au-dessus et 50% qui visent en dessous. Alors, ça, il y a un débat. il y a un débat, qu'est-ce qui est le plus percutant ? Une moyenne ou une médiane ? Chacun considère les choses comme il l'entend. Moi, je pense que les deux données sont importantes. Mais en général, on met la médiane un cran au-dessus de la moyenne en termes de pertinence. Bon, c'est pas le sujet. Le sujet, il est que l'objectif de cours médian est de 6694 points, selon les analyses financières sondées ici par FactSet. L'idée, en fait, c'est de faire la moyenne des objectifs de cours médian pour toutes les entreprises qui composent le S&P 500. D'accord ? Ça, c'est donc une première information. Alors, 6000, donc, reprenons les choses. Vous avez donc ici un graphique qui expose les bougies japonaises du contrat futur S&P 500. Là, vous avez les bougies japonaises mensuelles. Ici, vous avez les bougies japonaises hebdomadaires. Et ici, vous avez les bougies japonaises journalières. Ce que je vous propose, c'est de basculer sur la représentation graphique en données hebdomadaires et de voir les choses de manière plus panoramique. Alors, tout d'abord, je vous rappelle cette structure technique pour laquelle j'avais fait une comparaison avec la reprise post-Covid et admettez quand même que mon scénario était le bon. Je ne suis pas là pour dire que j'ai eu raison, je m'en fous. L'idée, c'est que si mon approche a été la bonne, on va continuer de l'appliquer. Il y a exactement eu une reprise en V, exactement, quasiment copier-coller la même structure de RSI. Vous voyez qu'on est loin d'avoir des divergences, on est loin d'être à la fin du truc, même si à court terme, on peut faire ça. Regardez par exemple ici, on peut revenir tester 50, mais au-dessus de 50, ça reste haussier. Il peut y avoir des corrections court terme, et il y en aura, et il faut même que ça corrige à court terme. Mais regardez d'ailleurs à l'époque ce qu'on avait fait. Ici, lorsque le marché est revenu au contact de son ancien record, il a fait une espèce de long range de plusieurs semaines. Là, ça peut très bien faire ça. Je veux dire, le S&P 500 peut parfaitement revenir tester l'ancien record historique. D'ailleurs, entre le moment où j'enregistre la vidéo et où elle sera publiée, on sera peut-être en train de le retester, voire même revenir à temps les moyennes mobiles. Vous voyez, c'est pas grave. C'est pas grave. Revenir tester cette zone ne met pas en danger le mouvement. Ce serait même très sain. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est donc le suivant. Les analystes financiers, donc en moyenne, en médiane, la cible médiane des analystes financiers, donc basée sur les fondamentaux des actions qui composent le S&P 500, est de 6700 points. J'ai arrondi, hein, c'est 6694. Voilà, ça c'est ce qu'ils visent. Alors, est-ce que c'est crédible sur le plan technique ? Ce qui est crédible sur le plan technique, c'est que nous sommes dans cette fameuse vague 5. Ça, vous le savez, vous me suivez depuis des mois, nous sommes dans la vague 5. Ok. La question est la suivante. Est-ce que les cibles théoriques de la vague 5 rejoignent, sont inférieures ou dépassent la cible médiane des analystes financiers, donc fondamentaux, des actions du S&P 500 à horizon 12 mois ? C'est la question. J'ai donc, pour répondre à cette question, proposé deux approches. Pour projeter la cible théorique de la vague 5, une projection du bas de la 1 au top de la 3 reportée au bas de la 4. Les extensions sont en noir. J'ai aussi proposé une autre approche qui est de reporter l'amplitude de cette structure en V. Structure en V qui rappelle d'ailleurs la reprise en V post-crise sanitaire. Post, rappelez-vous, le choc boursier du mois de mars 2020. Et donc, deux extensions sont importantes à suivre. Le 0,618 est la cible usuel, le 1 d'extension est vraiment la cible en cas d'extension haussière, de bulle, ce que vous voulez, de mouvement final. Ce qui me donne un intervalle, la première cible pour moi, la plus usuelle, elle est inférieure à ce que visent les analystes financiers fondamentaux. C'est le 0,618 du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et ça me donne 6450. Ça peut être une cible de fin d'année. Le marché peut très bien d'abord revenir retracer, s'appuyer sur les moyennes mobiles, s'appuyer sur les supports dynamiques, s'appuyer sur les supports, par exemple, je peux très bien ici ajouter les enseignements du système Ishimoku, revenir s'appuyer sur les supports et repartir. C'est pas un problème, ça. D'ailleurs, il est nécessaire à un moment ou à un autre de faire, regardez, ce qu'on avait fait ici après le Covid, là. Le marché pourrait très bien faire la même chose. Ici, vous voyez, et se mettre à osciller comme ça de manière à plat, peut-être même en retravaillant l'ancien record historique. Bon, ça c'est le court terme. Le court terme, chacun peut l'apprécier chaque jour. Moi je fais la vidéo chaque lundi, je ne suis pas là chaque jour. Mais dans tous les cas, dans ces mouvements-là, les replis sur support sont des opportunités. Et il y a un, en délit, en journalier, hein, il y a une zone de surachat à dégonfler. Mais donc, la première cible, pour moi, la plus usuelle, c'est donc 6450. C'est donc en dessous de la cible médiane. Ça, c'est la cible, je pense qu'on ira chercher. Voilà. Alors, en général, quand on dépasse le 0,618 du bas de l'un au top de la 3, on va chercher les autres extensions. Elles sont ici toujours en noir. Alors, je vais mettre le 0,786 et le 1. On va rarement chercher le 1, sauf en cas d'énorme bull market. Le 0,786, ensuite, passe à 6900 points, qui rejoint le 0,618 de projection ici de cette structure en V. Donc, techniquement parlant, la cible médiane basée sur les fondamentaux des analyses financières est en plein milieu d'un range technique. Donc, à la question de savoir est-ce que cette cible médiane des analystes financiers basée sur les fondamentaux des actions du S&P 500 à 6700 points est-elle crédible sur le plan technique ? Oui, elle l'est, même si elle se situe un poil au-dessus de la cible technique que j'estime être la plus usuelle et qui est à 6450. Alors la question est, moi, est-ce que je vais revendre tous mes ETF S&P 500 à 6450. Écoutez, je me pose la question quand on y sera, d'accord ? Parce que là, on n'y est pas. Mais, forcément, oui, je me pose la question. J'observerai l'action des prix à court terme, car je sais que ces 6450 sont un prix très important. Ça, naturellement, moi, chaque semaine, je vais continuer de suivre ça, voir où est-ce qu'on en est, et bien sûr que je ne vais pas... Mais moi, clairement, lorsque le marché, plus tard dans l'année, après une correction court terme, atteindra des seuils comme ça, ces seuils-là, et que ça commencera à diverger, forcément, oui. Il faut savoir revendre. Hein. Un gain est un gain. Moi, j'ai toujours dit, je dis toujours, un gain est un gain. Alors, tout ça, c'est bien marrant. Rien de drôle, hein, mais... Qu'en est-il des secteurs ? Alors, attendez, ça va trop vite, là. Je vous rappelle donc que les entreprises du S&P 500 sont réparties au sein de 11 super secteurs. Vous avez donc les 500 boîtes du S&P 500 qui sont réparties dans les secteurs. Alors attendez, les secteurs, je vous avais mis ici, voilà, ils sont là. Ils sont là. Avec chacun de ces secteurs ayant un point important. Notamment les stars de la tech, 33%, vous avez vu Nvidia, Microsoft, ça capitalise 4000 milliards, c'est incroyable. La question elle est de savoir si effectivement d'ici la fin de l'année, le S&P 500 est capable d'aller chercher les cibles fondamentales dont nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe sur les secteurs ? Quels sont les secteurs qui ont le plus d'upside ? Alors là, je vais à nouveau me référer à la dernière étude qui a été proposée par FactSet. Les sources sont indiquées ici. Et vous avez, je vous partage... Les opinions des analystes financiers. Et à nouveau, vous retrouvez ici donc les 11 secteurs, les valeurs financières, industrielles, communication services, consommation discrétionnaire, les matériaux, les valeurs de la tech, la consommation défensive, les services publics, l'immobilier, l'énergie et la santé. Les boîtes du S&P 500 sont toutes là-dedans. Comment savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Vous allez sur TradingView dans la section des 11 super secteurs. Faites par exemple ici un clic droit sur le secteur. Vous cliquez ici sur le secteur de la tech et là, vous avez les composantes. Et là, vous pouvez trier toutes vos composantes selon le critère que vous voulez, notamment par market cap. Vous voyez que Nvidia, c'est quasiment 4000 milliards de dollars. Microsoft, c'est 4000 milliards de dollars. Apple, c'est 3000 milliards de dollars. Bon, ça en fait des milliards de dollars. Ils ne sont pas dans nos poches, c'est dommage, mais on aimerait bien. En tout cas, ça donne un ordre d'idée. Mais ça permet de travailler le truc. Donc, vous allez dans la liste des secteurs, vous ouvrez le secteur, et vous avez l'onglet composants, et là, vous cherchez, vous triez, voilà, vous faites faire une analyse. Mais bref, l'idée, c'est quel secteur a le plus de potentiel. Alors, il y a deux approches. Déjà, vous pouvez faire l'analyse technique. Je ne vais pas le faire, hein, pas dans cette vidéo. Vous pouvez faire l'analyse technique des 11 super secteurs. Pourquoi ? Vous pouvez le faire parce que vous les avez sur TradingView, je viens de vous le montrer. Vous avez les codes ici. Donc, il vous suffit de rentrer l'un de ces codes dans vos graphiques TradingView et vous faites l'analyse technique du secteur. Moi, ici, dans cette vidéo, je pose la question fondamentale. Fondamentalement, eh bien, ce que nous disent les analystes financiers, selon la dernière étude de FactSet, c'est que le secteur de la santé, de l'énergie, de l'immobilier ont le plus de potentiel fondamental par rapport à leur prix actuel. Donc là, vous avez toutes les datas, vous pouvez les lire. vous avez, selon les analyses financières, là je suis vraiment tout petit, le potentiel en pourcentage de ces secteurs. Et certains font mieux que le S&P 500, d'autres font mieux, moins bien, le S&P 500 étant ici. Je vais faire copier-coller si vous voulez, pause et copier-coller de l'image, et ça vous donnera donc des informations sur ce sujet. Alors, le S&P 500 à court terme, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, le réservoir des vendeurs c'est un peu rempli, donc il y a encore du doute. Et attention, d'un point de vue quantitatif, on n'est pas encore dans la zone rouge, mais on approche. D'accord ? C'est pour ça qu'une correction court terme peut tout à fait intervenir et serait très saine. Alors, c'est une énorme semaine sur le plan macroéconomique que nous allons vivre. Beaucoup de statistiques, notamment chinoises, et ça, ça va être très important, notamment les ventes au détail, ça impacte énormément le commerce mondial, c'est l'indicateur de la consommation des ménages US, l'inflation US CPI le 15 juillet, dernier, le PPI le 16 juillet, et beaucoup encore de statistiques macro. Donc à un moment où le marché s'interroge sur le ralentissement de l'économie américaine, cette semaine est vraiment très chargée sur le plan des fondamentaux, avec notamment le temps fort fondamental de la semaine, qui est l'inflation US CPI, qui est mis à jour le mardi 15 juillet. Le CPI n'est pas l'indice favori de la Fed, donc il compte malgré tout. Je vous rappelle qu'au stade actuel, si l'on en croit les dernières minutes du FOMC, nous aurons d'ici la fin de l'année deux baisses de taux. Vous avez ici les probabilités agrégées entre ce que pensent les membres du FOMC. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les 12 membres qui votent au sein de la Fed. Vous pouvez reprendre les deux derniers Top Gun, plus ce que pense le marché. Et donc, normalement, il y a une baisse de taux en septembre et une baisse de taux en décembre. Ok, ça c'est ce qui va se passer, sauf choc exceptionnel d'ici là. Alors, le CPI est mis à jour cette semaine. Il n'est pas loin de la cible de la Fed. Il est à 2,4 en nominal, 2,8 en sous-jacent. La désinflation s'est mise en pause. Elle s'est mise en pause pour les raisons que nous connaissons, effectivement, un peu les tarifs douaniers, ça joue. Le consensus là envisage, selon l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland cette semaine, un rebond à 2,64 et à 2,95, il est particulièrement pessimiste. Alors, est-il trop pessimiste? Moi, je vous rappelle quand même que dans le CPI, vous avez 42% d'immobilier, et que tous les indicateurs d'inflation immobilière temps réel prennent la direction du sud. Le taux d'inflation des nouveaux loyers est même négatif. Lorsque vous regardez Trueflation, ça repart au sud. Alors attention, Trueflation repart au sud en juillet, mais les chiffres de juillet sont publiés en août, vous le savez. Or, attention, ce mercredi 15 juillet, vous avez l'inflation CPI, non pas du mois de juillet, mais du mois de juin. Et en juin, il y a eu une petite surchauffe liée au prix du pétrole, certes, qui est d'ailleurs retombé, mais aussi au tarif douanier un peu. Mais là, vous voyez que ça retombe. Donc, vous voyez un peu l'impact quasiment inexistant là, des tarifs douaniers sur l'inflation temps réel aux États-Unis, quasiment inexistant. Mais le consensus est quand même relativement pessimiste pour ces chiffres du mardi 15 juillet, donc on peut avoir de bonnes surprises. Moi, j'aime bien quand c'est pessimiste. Mais moi, tous mes indicateurs avancés d'inflation, et là, je vous en montre que certains, et notamment l'étude des différentes composantes, me montrent vraiment qu'il n'y a absolument pas de seconde vague d'inflation. Donc, au final, la désinflation est un peu en pause. Ce chiffre du 15 juillet va compter, pourquoi ? Parce que d'ici le 15 juillet, d'ici la prochaine décision de la Fed, c'est le 30 juillet. Vous voyez que la probabilité qu'elle baisse les taux, c'est 6%. Mais ce chiffre du 15 juillet, c'est le dernier important, parce que le prochain PCE et le prochain NFP sont publiés le 31 juillet et le 1er août, donc juste après la Fed. C'est pourquoi donc ce chiffre, cette semaine, a son importance. Alors, naturellement, là, on n'en est pas sorti. Puisque à chaque fois, les dates limites définitives sont reportées. Alors, la question que je vous pose, moi, c'est comment est-ce qu'on peut qualifier une date limite définitive reportée ? Bon, sauf que là, il y a un décret présidentiel qui précise bien que c'est une date limite définitive irreportable. Mais peut-on reporter une date limite définitive irreportable ? Alors, en tout cas, la diplomatie commerciale va rester un thème majeur. Et en particulier, lorsque nous serons enfin en 1er août, nous aurons une vision globale des tarifs douaniers qui vont s'appliquer. et nous pourrons calculer l'impact sur l'inflation PCE, l'inflation CPI, un impact qui sera transitoire, mais un impact qui sera bien là, peut-être 0,3, 0,4, 0,5. En plus, ça peut être embêtant parce que si là l'inflation est à 2,4, 2,5, vous rajoutez 0,5, on s'éloigne de 2, mais on ne part pas non plus en seconde vague d'inflation. Tout ça joue avec bien sûr la macro américaine, et donc cette semaine est hyper chargée sur le plan de la macro US. Voilà, chers amis, alors, et selon vous, après une correction court terme pour le S&P 500, si vous avez des ETF S&P 500, à quel prix avez-vous décidé de tout revendre? J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réponse pour répondre à cette question. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine.